L'Algérie vers les accords d'Évian. Deux tendances opposées s'affrontent jusqu'aux accords d'Évian en 1962. L'autodétermination décidée par le général de Gaulle et l'Algérie française désirée par la population européenne. Après le putsch des généraux français qui tentent de prendre le pouvoir dans la capitale algérienne, l'opposition au projet du président de la République devient clandestine et violente avec l'OAS. Jusqu'à la signature des accords, suivie de l'arrivée de centaines de milliers de rapatriés. L'Algérie. De Gaulle semble d'abord favorable à l'Algérie française. Il propose la paix des braves, ainsi que des réformes économiques et sociales. Mais ces propositions n'ont aucun effet sur les Algériens. De Gaulle commence alors à parler d'autodétermination, le droit pour les Algériens de décider de leur avenir. Les Européens manifestent leur opposition au projet. Le 24 janvier 1960, une émeute fait 22 morts dans le quartier des facultés à Alger. Des barricades se dressent dans la ville. L'armée n'intervient pas. Le général Massu n'avait-il pas déclaré qu'elle était hostile à l'autodétermination et favorable à l'Algérie française? Mais de Gaulle reste ferme. Finalement, les émeutiers abandonnent la partie et le 2 février, Pierre Lagaillarde en tête, l'instigateur du mouvement, se rend aux forces de l'ordre. Le référendum sur l'autodétermination en Algérie a lieu le 8 janvier 1961. Le oui l'emporte avec 75% des suffrages. Le 16 janvier, le GPRA annonce qu'il est prêt à négocier avec la France. Un de ses représentants va rencontrer en secret Georges Pompidou. De son côté, Pierre Lagaillarde, réfugié en Espagne, fonde, le 20 février 1961, l'Organisation de l'armée secrète, l'OAS, destinée à agir par tous les moyens pour que l'Algérie demeure française. Le cœur parfaitement tranquille. C'est ainsi que de Gaulle qualifie son sentiment le 11 avril 1961, lorsqu'on lui demande de quelle façon il envisage l'indépendance de l'Algérie. Parmi ceux qui l'entendent et refusent l'éventualité de l'indépendance, trois généraux, Challes, Zeller et Jouot. Ils vont tenter de rééditer le coup de force de Massu et Salan du 13 mai 1958. Le 22 avril 1961, aidés de parachutistes, ils se rendent maîtres du gouvernement général d'Alger, arrêtent le ministre Robert Buron, qui se trouvaient là en mission, et reçoivent le renfort de Salan, qui arrive d'Espagne, où il s'était réfugié. La population européenne est enthousiaste, mais ils ne sont guère suivis. Le lendemain, 23 avril, le général de Gaulle se fait accorder les pleins pouvoirs, en vertu de l'article 16 de la Constitution. Dans un discours prononcé le même jour, il dénonce l'action de ce qu'il appelle un quarteron de généraux en retraite. Se sentant isolé, ce quarteron abandonne la partie. Challes et Zeller se rendent, mais Jouot et Salon s'en vont renforcer les rangs de l'organisation de l'armée secrète. Août 1961. L'OAS se montre de plus en plus active. Les attentats sont de plus en plus nombreux et meurtriers en France et en Algérie. Alors que du 20 mai au 13 juin, les négociations avec le FLN ont échoué à Évian, à cause du pétrole du Sahara et des garanties données à la communauté européenne. En novembre, de nouvelles manifestations éclatent à Alger. Elles font près d'une centaine de morts. FLN et OAS multiplient leurs actions dans une Algérie qui s'enfonce dans le chaos, pendant que le général de Gaulle est attaqué de tous côtés, et même conspué à Marseille. Le 7 février 1962, un attentat contre André Malraux rend aveugle une petite fille dont la photo publiée dans la presse rend l'opinion française très défavorable à l'OAS. Le lendemain, une manifestation communiste est organisée contre cette organisation terroriste. Elle est réprimée avec violence par la police au métro Charonne. Le bilan est lourd, 200 blessés et 8 morts, aux obsèques desquels assistent 500 000 personnes.